La dernière fois, entre autres, hein, on parlait un tout petit peu du fait, les attaques en général que nous allons subir dans notre vie chrétienne peuvent venir de n'importe où, à n'importe quel moment, et que notre vrai adversaire, ce n'est même pas notre chair. Notre chair est un adversaire, c'est sans aucun doute. Le monde est un adversaire, sans aucun doute. Mais le chef derrière tout ça, c'est quand même Satan. Satan qui sait comment utiliser le monde, qui sait comment même travailler, utiliser notre propre chair contre nous aussi. Et on avait parlé que, bon, malgré tout cela, malgré le fait qui il est et qui c'est un adversaire qui peut être imposant, qu'on ne doit pas prendre à la légère, mais que on n'a pas en avoir peur. Comment dire, pas le prendre à la légère, certes, mais que nous sommes plus que vainqueurs. On avait vu le passage en Romains 8. Et on avait vu quelques vérités par rapport à cela. La victoire du fait qu'on est plus que vainqueur, ce n'est pas à cause de qui nous sommes, autant de à cause à qui nous appartenons. Donc, la force qui nous apporte quelques victoires dans notre vie chrétienne, elle ne viendra jamais seulement de nous. Nous avons notre part, nous avons nos responsabilités, mais que pour être plus que vainqueur dans le domaine spirituel, ben, il nous faut un Dieu qui nous apporte cette force que nous n'avons pas de par nous-mêmes. Et quand nous choisissons de l'obéir, pas à pas, pas après pas, jour après jour, un choix après l'autre, en étant sensible et à l'écoute du Saint-Esprit, de sa parole, ben, les victoires commencent à venir. On avait terminé la semaine dernière en relisant ces passages en 1 Corinthiens 10, 12 et 13, qui parlent des tentations. Et la raison de pourquoi on parle de toutes ces choses, que malgré les tentations, que Dieu est fidèle, ne nous permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, etc. Parce que, avec les mines que nous allons voir, les attaques bien cachées, dissimulées que Satan mettra sur notre route, on va en voir certains, et selon qui nous sommes, et nos forces et nos faiblesses, nos points forts et nos manquements, il y aura certaines de ces choses qui pourront sembler trop grandes pour nous, pour être vraiment plus que vainqueurs dans ce domaine précis, pour pouvoir ne plus jamais marcher sur cette mine, quelle qu'elle soit. Comme la toute première que nous allons voir, Dieu voulant, c'est celle de l'orgueil. Ou c'est pas juste celle, c'est les. À chaque fois, on dit pas la mine, mais les mines de l'orgueil. Parce qu'il y a différentes façons de toucher notre orgueil. Et pour certains, ils disent, oui, ça, c'est quelque chose de trop. Et d'autres, c'est les mines. Ben, vous avez le plan au début, de toute première note, de toutes les différentes mines que nous allons voir. Il dit, oui, mais ça, c'est un endroit qui m'est. Je vois comment Dieu me donnera la victoire dans ces domaines-là, mais celui-là, il est trop dur pour moi. On était dans nos notes, page 6, en milieu de la page, où entre les versets de 1 Corinthiens 10, 12 et 13, également le passage de Jacques, chapitre 1er, verset 25, et il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, donc il y a plusieurs choses déjà qu'on pourrait ressortir rien que dans ce verset, n'est-ce pas? C'est pas juste qu'on lit la Bible, mais on plonge les regards dans la loi parfaite. Elle n'est pas à être remise en question. C'est pas, oui, mais ça c'est. Le monde, il dit différemment, mais le monde a changé depuis que ça a été écrit. On n'a pas à remettre en question ce que Dieu déclare dans sa parole. On plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Quand on accepte ce que Dieu dit, il y a une grande liberté, entre autres. Et qui aura persévéré, donc malgré les difficultés, malgré que ce n'est pas toujours facile, malgré, comme on avait vu, des fois on se fatigue, on mène le bon combat, mais n'importe quel soldat, avec le temps, se fatigue, il a besoin de se reposer, etc. Mais il faut quand même persévérer. Il dit, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Donc, de connaître, de savoir ce que dit la Bible, c'est bien. Mais c'est bien plus que juste avoir une connaissance des vérités bibliques. C'est de vraiment prendre ces vérités et de les prendre à cœur. Et ça, c'est une vérité que je veux que Dieu puisse utiliser pour me changer, pour me transformer, pour me rendre plus fort, pour arrêter de, pour m'aider à ce que j'arrête de penser d'une façon humaine et de remplacer cela par les pensées de Dieu, de ce que lui déclare être vrai et juste, et que cela me fortifie pour m'aider à persévérer justement. Et c'est ce que ce verset en Jacques 1,25 pour moi est si important. Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On sait ce mot heureux peut être également traduit par béni. Il réussira. Il est heureux parce qu'il voit Dieu l'aider à ne pas faillir dans ce qu'il entreprend, parce que il a mis Dieu en premier, ses vérités, sa loi, son commandement en premier. Il ne le remet pas en question, lui fait confiance. Il faut qu'on réalise, qu'on se rappelle toujours que nous sommes dans cette guerre spirituelle. On avait commencé ce chapitre avec cette réalité, de nous rappeler que, et il nous faut ne pas être comme ces soldats que nous avons dans nos armées, qui se réveillent chaque matin et qui poursuivent sa journée comme s'il était chez lui, sans danger, sans ennemi, sans mine cachée sur son chemin. Nous sommes dans cette guerre, mais de fait d'accepter, de réaliser que nous sommes dans cette guerre spirituelle, qu'il y a des dangers partout, on n'a pas à connaître cela pour que cela nous décourage, pour que cela nous abatte. On va avoir, comme on dit, des mines spécifiques, et on pourra avoir l'impression que c'est trop difficile, mais c'est pour cela que j'ai voulu donner aussi ces autres versets qu'on va voir ce soir, pour nous rappeler, nous encourager. On n'est pas sans moyens, on n'est pas sans force, on n'est pas sans aide non plus. Le passage qu'on connaît bien en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13, je les ai mis dans vos notes aussi pour que vous pas obligé de perdre plus de temps à trouver dans nos Bibles. Éphésiens 6, verset 10 dit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Déjà, j'ai toujours aimé cette façon de dire. Rendez-vous fort, fortifiez-vous. N'ayez pas peur, si vous voulez. Ne laissez pas ce qui est en face de vous vous affaiblir, vous rendre faible. Fortifiez-vous, grandissez, mûrissez dans le Seigneur, mais pas à cause de ce que vous faites, non, et non même à cause de qui vous êtes. Il le dit, par sa force toute-puissante. C'est parce que je m'en remets entièrement à lui, je lui fais confiance. Il y a aussi notre responsabilité, verset 11. Revêtez-vous. La façon qu'il est dit dans ce passage, c'est pas comme le salut où on se revêt de notre armure une fois pour toutes. C'est tous les jours. Revêtez-vous. Chaque jour, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tant que nous avons à lutter contre le diable, on doit se revêtir de cette armure. Sans exception. Et il nous rappelle encore une fois, verset 12. Car, donc la raison pourquoi nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pas juste une, toutes. La Bible est une arme, la prière est une arme. Et on pourrait continuer, ce n'est pas le but ce soir. Prenez toutes les armes de Dieu. Encore, il donne la raison du pourquoi, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'ai surligné et entouré ce mot après dans ma Bible, il y a longtemps, parce que Dieu l'avait utilisé pour me toucher. Parce qu'on veut, il est facile d'être fort avant le combat, d'être confiant avant le combat. On peut être fort pendant le combat, mais la vraie persévérance, la vraie foi, la vraie fidélité se prouve après le combat. Et il dit de tenir ferme avant et même pendant, c'est une bonne chose. mais d'avoir pu tenir ferme après que le combat a été terminé. Ce combat, cette lutte, cette bataille ne m'a pas fait vaciller, ne m'a pas fait tomber. J'ai tenu ferme par la grâce de Dieu, par sa force toute-puissante. J'ai pu tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est la vraie force du combattant. Il faut avoir cette force avant et pendant. Mais de pouvoir dire, j'ai tenu ferme après avoir tout surmonté, ça, c'est le témoignage que Dieu veut que nous ayons. Réalisons et réalisez que Dieu est avec nous. Il ne demande pas de vivre notre vie chrétienne et faire du mieux qu'on peut, et puis il nous verra une fois qu'on est au ciel avec lui, et on rendra des comptes à ce moment-là. Il dit, je suis avec vous tous les jours, chaque jour. Il nous faut croire, mettre place notre foi, que pas seulement ce qu'il est là, qu'il voit, qu'il connaît, qu'il comprend, mais il a envie de nous aider. Donc les pièges que nous allons voir, les mines que nous allons voir, les difficultés qu'on devra faire face dans notre vie, Dieu n'a jamais eu l'attention à ce que on doit y faire face sans son aide. Pas seulement à ce que sans qu'il soit là à côté de nous en train de nous encourager, mais sans qu'il soit là pour nous donner sa force, sa sagesse, son soutien, et même s'il le faut parfois de temps en temps, de nous, pas seulement nous tenir la main, mais de nous prendre sur ses épaules et nous reposer quand le besoin est là. Ce n'est pas juste un j'espère que Dieu m'aidera. Ce n'est même pas un je ne mérite pas que Dieu m'aide, donc ça m'étonnerait. Mais c'est un je sais que Dieu va m'aider à cause de son amour et de sa grâce. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Ne laissez pas les si et les oui mais, parce que dès qu'on parle des problèmes qui nous semblent insurmontables, des problèmes qui nous semblent trop difficiles pour nous de pouvoir avoir la victoire dessus, la première chose qu'on dit, c'est les si et les oui mais. Mais oui, mais tu ne comprends pas ma situation. Oui, mais moi, j'ai un cas différent. Mais si seulement j'étais plus comme ceci, alors là, je pourrais être plus comme cela dans cet autre domaine. Ne laissons pas les si et les oui, mais faire placer le doute à la place de là où devrait se trouver la foi. Vous connaissez le passage en Philippiens 4, 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je rajoute cela avec le passage qu'on a vu la semaine dernière en Romains 8, 37, que nous sommes plus que vainqueurs. J'espère que vous avez remarqué que ce terme, que nous sommes plus que vainqueurs, est au présent. Ce n'est pas juste une fois que serons au ciel, nous serons plus que vainqueurs. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité d'être plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Donc, pas juste à peine réussir, à peine avoir la victoire, mais être plus que vainqueur, avoir une victoire facile, pour ainsi dire, par celui qui me fortifie, à cause de qui il est lui. N'oubliez pas et réalisez, ou rappelez-vous, comment vous en êtes arrivé aujourd'hui dans votre vie spirituelle. Il n'y a pas le moindre chrétien qui a une marche proche avec le Seigneur, qui en même temps donnerait le témoignage pour dire, j'en suis arrivé là avec ma marche avec le Seigneur à cause de ce que moi j'ai fait. Mais ceux qui ont la marche la plus proche avec le Seigneur seront ceux qui disent, c'est par la grâce de Dieu. Malgré mes manquements, malgré mes faiblesses, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a montré miséricorde, Dieu m'a encouragé, Dieu m'a aidé, Dieu a pourvu, Dieu a été là chaque pas, chaque étape, même quand les moments où j'étais exactement comme il voulait que je sois, c'était quand même lui qui était en première place. Et quand je ne faisais absolument pas ce qu'il voulait que je fasse, Dieu, lui, ne m'avait pas tourné le dos. Et on donnerait toute la gloire à Dieu pour qui nous sommes aujourd'hui. Pas que nous soyons grand-chose, mais pour dire que c'est quand même mieux de ce que j'étais avant mon salut. Et c'est encore beaucoup mieux de ce que je serais si je n'étais pas sauvé ou si Dieu n'était pas à mes côtés. Alors quand on commence à avoir ces doutes qui veulent remplacer notre foi par les si et les oui mais, rappelons-nous ou comment est-ce qu'on est arrivé où nous sommes aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Et ce sera par la grâce de Dieu qui nous aidera à triompher sur les différentes mines qui seront sur notre sentier. Ce n'est pas grâce à notre capacité de visualiser les choses, de bien voir, de bien analyser, de bien contourner. Mais avec sa grâce, c'est lui qui me rendra plus que vainqueur pour ne pas tomber dans les pièges qui se trouvent sur mon chemin. En page 7, dans les versets qui nous sont donnés ici, 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Joshua, si tu veux bien lire ces deux versets.
1 Jean 2, 1 et 2.
Oui.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
J'aime cette façon qu'il s'adresse à nous, peu importe qui nous sommes dans cette pièce, mes petits-enfants. Vous vous croyez adultes? Dans le domaine spirituel, vous êtes des petits-enfants. Et il nous dit, dites-moi, je vous laisse la parole pendant un très bref instant. Qu'est-ce que ces deux versets disent pour vous? De quelle manière quand vous lisez, vous entendez ces versets, qu'est-ce que ça vous fait? Je sais, je ne vous ai pas prévenu à l'avance, donc je vous donne du temps.
Manière dont il s'occupe de nos péchés, s'occupe de nous parce qu'il est notre avocat, mais en même temps il est celui qui a payé pour tout ça.
Ouais. Moi j'aime bien aussi le fait, et c'est tout à fait vrai, il y a le verset 2, et c'est pour ça que ce verset 2 est inclus. Il nous comprend. Et il nous fait grâce constamment. Je sais que nous, notre réaction humaine, c'est de vouloir minimiser un peu ce que dit le verset 1. Et je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Bon, mais ça, c'est pas possible. On va toujours pécher au moins un petit peu. Et ça, c'est nous qui voulons réduire. Parce que quand on pêche, tu vois, ça y est, je le savais, c'est normal, tout le monde pêche un peu. Et pour moi, ça ne va pas avec le même esprit que nous sommes plus que vainqueurs. Et il y a d'autres passages qu'on pourrait mettre en parallèle. Mais en même temps, il nous fait cette grâce aussi, comme tu as dit, ce verset premier, il dit, et si quelqu'un a péché? Donc, il dit, on le fait parce que ça devrait être votre volonté dès le départ de dire, je ne veux pas pécher. Et non, dès le départ, commencer à me faire des excuses sur pourquoi je pécherais. Vous voyez la différence? Quand on dit, je veux croire que Dieu dit vrai, qu'il m'est possible de ne pas pécher, on commence avec un optique bien différent que si on commence dès le départ avec, je vais marcher sur une mine. Je vais pécher. Je vais me faire avoir. Je vais. Et il dit, mais si ça arrive, sachez que ce n'est pas la fin. Si ça arrive, vous n'êtes pas excommunié, vous n'êtes pas rejeté. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, mais ça m'humilie aussi quand même un peu en me disant que même si j'ai la bonne attitude et que je commence, on va dire, cette journée avec cette volonté qu'aujourd'hui, Seigneur, tu peux me permettre de ne pas commettre le moindre péché. Mais si jamais dans cette journée je pêche quand même, que ce n'est pas à cause de moi qu'il me pardonne. Ce n'est pas à cause de qui je suis, à cause de la volonté que j'ai montrée qu'il me pardonne. C'est parce que j'ai un avocat auprès de Dieu le Père auquel il ne peut pas dire non. Mais ça me, en même temps, ça m'encourage en disant que peu importe le péché que j'ai fait, que cet avocat fera en sorte que je sois pardonné à chaque fois. Parce que c'est à cause de lui. Il est lui-même cette victime expiatoire. C'est lui qui dit, il se présente devant le Père, dit, j'ai payé sa dette. Il est nouveau lavé. Pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je demanderai à Pasteur de lire, s'il veut bien lire le passage en psaume 18, 30 à 35. Et pendant qu'il le lit, voyez ce que ces versets disent. Et si vous avez des choses que vous voulez partager par rapport à ce que ces versets vous disent à vous personnellement, bah faites-le.
Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain.
Voilà, donc, psaume 18, 30 à 35, on n'a pas vu le chapitre entier. Mais si on prenait juste ces quelques versets ensemble, ces six versets, qu'est-ce que cela vous inspire?
Qu'il n'y a personne d'autre en qui on peut se confier.
Oui.
Rejoint, je prie tout par celui qui m'a fortifié aussi.
Oui, absolument. C'est quand on voit, c'est marqué d'une manière très claire ce que moi je fais et ce que Dieu fait pour que je puisse faire ce que moi je fais. C'est avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Sans toi, c'est pas la peine. C'est avec mon Dieu, je franchis une muraille. Sans Dieu, cette muraille m'arrête. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, c'est-à-dire qu'elle a été testée et prouvée comme étant juste. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Donc, tout se rapporte sur Dieu. Et si je veux avoir la victoire, si même je le ramène au passage de 1 Jean, si je veux pouvoir passer une journée entière sans commettre le moindre péché, c'est seulement Dieu qui peut m'en rendre capable. Ce n'est pas parce que moi j'en ai décidé ce jour-là, je vais être fort, je vais tenir ferme, je vais travailler dur, je vais m'enfermer dans ma chambre, je vais éteindre mon téléphone, je vais faire tous les efforts nécessaires pour qu'aujourd'hui, moi, je ne pêche pas. Hein, on l'a déjà raté. Parce que si ce n'est rien d'autre, on s'est recueilli sur nos forces, nos capacités, on a mis Dieu en dehors. Et si Dieu voulait qu'on aille parler à quelqu'un, ben, il dit non, je vais m'enfermer parce que je veux m'écarter de tout péché. Mais avec Dieu, oui, tout est possible. Et ça, on aime le dire. Ce qui est impossible à l'homme, ben, pour Dieu, c'est sans problème. Que rien ne lui est impossible. On aime penser et dire que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que cela ne comprend pas aussi, n'inclut pas de m'aider moi à passer une journée sans tomber dans la tentation, sans tomber dans le péché? Et si je le réussis sur une journée, dis Seigneur, aujourd'hui encore, aide-moi à avoir la victoire. Et si, disons, sur une semaine, j'ai réussi à avoir 3 ou 4 jours entiers où je n'ai pas commis le moindre péché et que je pêche un jour, je demande pardon, il me pardonne, il me réconcilie, puis je passe de nouveau 3 ou 4 jours, ben, gloire à Dieu, je peux passer une semaine où je n'ai péché qu'une seule fois. Et peut-être que le plus que je le fais, peut-être que ça pourrait aller à 2 semaines. Mais ne vaut-il pas mieux passer 3 ou 4 jours, une semaine ou deux selon les cas, et à ne pas pécher et de pécher juste à un moment donné, et puis être réconcilié, que de passer 3 ou 4, 5 jours en péchant continuellement et en étant juste avec Dieu pendant un petit moment seulement. Mais car qui est Dieu? Verset 32, si ce n'est l'Éternel. Qui est-il si lui ne peut pas nous aider? Si lui n'est pas capable de refaire, de nous donner cette victoire, alors personne d'autre ne peut. Si ce n'est l'Éternel, c'est lui le rocher. C'est lui qui me ceint de force. C'est lui qui me conduit dans la voie droite. On a parlé de toutes ces choses un peu par rapport les mines qui sont cachées sur notre sentier, de savoir où aller, comment marcher. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches qui sont, à ce qui paraît, des pieds très sûrs, où ils peuvent escalader les parois montagneuses et bondir et atterrir de l'autre côté sans problème. Je sais pas comment ils font, mais ils le font. Mais également, ce verset 34, c'est Dieu qui me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, mais je dois être là à vouloir combattre. Et mes bras tendent l'arc des reins. Alors que, Dieu voulant, on regardera certaines mines bien spécifiques, comme on a dit. Ayez toujours à l'arrière-pensée que Dieu aime parler à ses enfants. Il aime nous parler à travers sa parole, il aime nous parler bien entendu à travers le Saint-Esprit, à travers la prière, il aime nous parler à travers des conseils bibliques. Dieu n'est pas limité sur comment il peut se faire entendre auprès de ses enfants. Peut-être que vous avez d'autres illustrations ou d'autres moyens que vous pouvez penser auxquels de comment Dieu peut parler à ses enfants. Sauf à part ce qu'on a déjà mentionné. J'en pense à un spécifiquement pour moi. Je vous laisse la parole. Vous y penserez peut-être pareil aussi. De quelle manière est-ce que Dieu peut vous parler?
D'autres gens,
Oui.
alors
Mais parfois, c'est même pas des personnes sauvées. Je sais qu'il aime parler également, utiliser la musique, les chants chrétiens et autres, surtout les chants chrétiens en ce qui me concerne, où il me rappelle certaines vérités au moment où j'en ai besoin, parfois pour me reprendre, parfois juste pour m'encourager, parfois pour consoler. Parfois il va utiliser un enfant pour enseigner un adulte. Peut-être un fils ou une fille pour le parent, parfois un enfant pour un autre enfant. Dans la Bible, il y a d'autres exemples que bon, je ne pense pas que ce sera le cas aujourd'hui, où il fera parler à un âne. Mais le fait est, si Dieu veut nous parler, rien ne pourra l'empêcher pour le faire. On peut choisir d'ignorer ce qu'il nous dit, on peut faire la sourde oreille. On ne pourra pas dire Dieu ne m'a jamais rien dit. C'est notre responsabilité de prêter attention, d'avoir une oreille ouverte, ou plutôt un cœur ouvert, hein, enseignable, comme on dit, sensible à sa volonté, à sa parole. Et ça devrait être l'une des raisons de pourquoi on devrait avoir envie d'avoir une lecture quotidienne et une vie de prière, où on est en train de montrer à Dieu, avant de prier, avant de lire, Seigneur, montre-moi ce que toi tu veux me dire. Même s'il ne nous montre rien d'extravagant, d'une super grosse révélation à travers le passage qu'on lit, c'est pas toujours bien grave parce que on a déjà commencé en ayant l'attitude de dire Seigneur, je veux que tu m'enseignes. Je suis à l'écoute. Et il ne nous dira peut-être pas ce qu'on pensait à travers ce passage qu'on a lu, mais il nous pourra bien plus facilement de parler à travers ces autres moyens pendant la journée, si on garde cette attitude, Seigneur. J'ai commencé cette journée en te donnant la première place. J'ai commencé cette journée en te montrant que j'ai ce cœur enseignable, que je veux t'écouter. Ce n'est pas lui qui va faillir à nous parler. Éphésiens 5, 15 à 17, dit: Prenez garde, donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jour après jour, pas après pas, chaque décision. Et je pourrais continuer en parlant de ces trois versets qu'on vient de lire, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai déjà fait des photocopies pour le prochain chapitre, comme on dit, sera les mines de l'orgueil, je les garde, comme ça je vous les donnerai la semaine prochaine, comme ça personne ne les perd entre-temps. Et si, comment dire, j'ai voulu prendre le temps quand même, avant de voir ces mines spécifiques, de parler des dangers auxquels on doit faire face régulièrement, quotidiennement, jour après jour, d'une manière générale, de nous rappeler qui les a posés, ces dangers, et de ne pas focaliser sur le mauvais adversaire, même si Satan utilise les personnes que nous voyons physiquement, que ce ne sont pas eux nos ennemis. Et même si parfois, comme on avait vu il y a quelques semaines, le géant en face de David, l'adversaire ou le problème ou la difficulté, le danger, bah justement, c'est un danger. Donc, c'est compréhensif que nous ayons peur et que cette peur ne devrait pas nous paralyser. Et que nous sommes des soldats de Christ qui avons Dieu qui combat pas seulement à côté de nous, mais avec nous. Comme on a lu le passage où c'est lui qui me sert de force, c'est lui qui tient mes bras, la force de l'épée, etc. Notre force dépend de lui, de nous rappeler de qui nous sommes, mais de surtout de qui il est lui, et que ce n'est pas que nous espérons être un jour plus que vainqueurs, mais que nous avons déjà la promesse d'ores et déjà aujourd'hui d'être plus que vainqueurs, que nous sommes plus que vainqueurs par la force que nous avons en Christ. Que c'est à nous de ne pas renier cette force. C'est à nous de ne pas renier cette victoire que Dieu nous a déjà apportée. De ne pas croire les mensonges que Satan nous dit, mais il n'était pas possible de passer une journée entière sans péché. C'est pas possible, pas pour toi. Bah, dans ce cas-là, commence en priant pour une moitié de journée. Au moment que tu te lèves jusqu'à midi, dis: Seigneur, aide-moi à ce que jusqu'à midi, je te sois fidèle en toutes choses. Pas la moindre désobéissance par rapport à ta volonté. Et si Dieu te donne cette victoire, dis: Seigneur, jusqu'au coucher ce soir. Et quand tu vois que le Seigneur t'a rendu plus que vainqueur sur une journée comme ça, la prochaine fois, tu dis: ben, Seigneur, aujourd'hui, au lieu que ce soit jusqu'à midi, tiens, pourquoi pas toute la journée? Parce que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas justement une prière qu'on fait avec cette j'espère que Dieu va, mais je sais que Dieu va m'aider. Et c'est une prière que nous allons nous rappeler et même peut-être devoir répéter. Justement, quand on voit le géant en face de nous, quand on voit le danger, quand on voit la tentation qu'il a dit: Seigneur, j'ai prié ce matin pour que je te sois fidèle, à ce que je ne succombe pas au moindre péché. Là, ça devient difficile et je m'en remets de nouveau vers toi. C'est justement quand on commence à avoir cette habitude de ne pas plier devant le danger, mais de plier les genoux devant Dieu pour recevoir la force nécessaire pour ne pas succomber à la tentation. C'est là où nous pourrons voir les victoires par la grâce de Dieu qu'il donne. Et que si jamais on glisse quand même et qu'on pêche quand même, que nous ayons cette assurance que nous avons cet avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et on peut continuer de nouveau. On va s'arrêter là pour ce soir et relever les sujets de prière.